Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Guillaume à la technique. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous en direct et jusqu'à 11h sur IDFM Radio, la radio d'Île-de-France en Val d'Oise, que vous pouvez capter en FM sur la fréquence 98.00, en web radio sur 98.fr, en DAB+ pour toute l'Île-de-France et sur notre appli dans le monde entier. La cybersécurité au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, vendredi 26 avril 2024, l'économie en direct a le plaisir de mettre une nouvelle fois à l'honneur un de ses partenaires, la CCI 95, Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, une institution qui accompagne tous les entrepreneurs afin de leur donner accès à toutes sortes de services dédiés. Aujourd'hui, découvrons celui mis en place pour tenter de répondre à la question « Dans le domaine de la cybersécurité, quels sont les risques pour ma TPE-PME ?» Un thème sensible et plus que jamais d'actualité. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Pradel. Bonjour Jérôme.
Bonjour Jacqueline.
Toujours très heureuse de vous recevoir à notre antenne.
Merci.
Conseiller et expert numérique Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, vous mettez en place des stratégies innovantes et adaptées aux besoins de chaque entreprise, dont celles entre autres liées aux risques cyber, qui ne sont plus à démontrer. Et c'est ce que vous nous expliquerez dans quelques instants.
Tout à fait.
À vos côtés, Marion Laget. Bonjour Marion.
Bonjour Jacqueline.
Également très heureuse de vous accueillir à nouveau ce matin. Dirigeante de Antana, spécialiste en sécurité informatique et cybersécurité, vous accompagnez la CCI 95 dans certaines de ses missions, dont celle dans ce domaine de la cybersécurité, d'informer les chefs d'entreprise à la fois sur les différents types d'attaques et attaquants, mais aussi sur les solutions techniques pour sécuriser ces données. Et nous avons hâte de vous écouter. À vos côtés, Lydie Arceo. Bonjour Lydie.
Bonjour Jacqueline.
Ravie de vous rencontrer, de vous avoir avec nous pour cette émission. Responsable formation continue à Lézier IT, école de la CCI Paris-Île-de-France, école de référence d'ingénieurs de l'expertise numérique et qui prépare à la performance en entreprise. Le numérique occupant désormais une place centrale dans les organisations, l'école propose un véritable environnement de travail numérique et grâce à vous, nous en saurons plus tout à l'heure.
Vous écoutez l'économie en direct avec Jacqueline Voraz.
IDFM Radio 98 FM. Bienvenue et merci d'être les invités en direct sur IDFM Radio pour ce nouveau numéro de l'économie en direct. Une émission à retrouver bien sûr en podcast sur le site idfm98.fr ou sur notre appli. Et tout de suite, nous ouvrons le micro de Jérôme Pradel. Alors Jérôme, nous l'avons dit en préambule, le risque cyber n'est plus à démontrer. Et surtout, la question n'est plus de savoir si son entreprise va être attaquée, mais plutôt quand elle va être attaquée. J'ai pu voir en préparant le dossier que 80% des entreprises françaises ayant un responsable de la sécurité des systèmes d'information ont déjà constaté une cyberattaque. Vous confirmez ces chiffres, Marion et Lydie?
Oui, c'est des chiffres qui sont en constante augmentation et qu'on constate depuis un certain temps. Et cette augmentation est croissante et va l'être de plus en plus avec l'arrivée de nos fameux Jeux Olympiques.
Oui, oui, oui.
Le risque, en effet, aujourd'hui, c'est plus de se demander est-ce que je vais me faire attaquer, mais quand je vais me faire attaquer. Et ce qu'on essaye de faire au niveau de la Chambre de commerce, c'est aussi de sensibiliser les entreprises, oui, sur le fait que ce ne sont pas simplement les grosses entreprises qui vont se faire attaquer,
oui,
mais
oui,
surtout les plus petites. Il y a différents types d'attaques. Une attaque, c'est on peut très bien se faire attaquer sur ses serveurs sans forcément s'en rendre compte et que ce soit visible si on n'a pas un minimum d'outils pour se prémunir. Et c'est pour ça que on a décidé d'organiser une grosse après-midi. On appelle ça un petit peu les journées du numérique chez nous, mais c'est surtout une grosse après-midi durant laquelle les entreprises vont pouvoir venir rencontrer des experts de la cybersécurité pour se sensibiliser un petit peu sur le sujet qui devient de plus en plus important.
Qui devient de plus en plus important. Et vous-même, vous dites que vous sentez que les entrepreneurs se sentent de plus en plus concernés.
De plus en plus, oui, c'est vrai qu'on n'avait pas la même réaction des entreprises l'année dernière sur ce sujet. Mmh. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'on fait des événements sur la question que les gens se sentent un peu plus investis sur ce type de thématique.
Et cependant, je me souviens que l'année dernière, à peu près à la même époque, il y avait une grosse attaque au niveau de l'Assemblée nationale. On en avait parlé. Et ce genre d'événement, ça ne fait pas de tilt chez les...
Ça fait pas tilt parce qu'en fait, on met en avant ce type d'attaque sur des grosses institutions, sur des grosses entreprises. Donc les petits entrepreneurs, en fait, ne se sentent pas concernés. Et ils pensent toujours que ce type d'attaque est réservé aux grosses entreprises. Mmh. Mais ces grosses entreprises-là sont préparées à ce type d'événement. Sauf qu'une petite entreprise, une TPE, n'est pas du tout préparée. Et c'est là qu'on veut mettre l'accent, c'est de vraiment faire comprendre aux gens qu'une attaque peut arriver à tout le monde et les conséquences ne sont pas du tout les mêmes.
Bien sûr.
Puisque sur une grosse entreprise, ils sont un minimum préparés, donc ils ont les capacités de rebondir. Alors que parfois, une petite entreprise, dès lors qu'elle se fait attaquer, ça peut être la fin de l'entreprise parce qu'elle n'a pas rien prévu et elle n'a pas les moyens de remettre un plan d'action pour repartir.
Donc, c'est pour cette raison que la CCI est, on l'a dit hein, au début, au plus proche des entreprises pour sensibiliser leurs dirigeants à ces menaces. Jérôme, donc le 28 mai, un nouvel atelier, hein, vous venez de nous en parler. Qu'est-ce qu'il va avoir de nouveau cette année par rapport à l'année dernière ?
Alors cette année, on va faire une grosse après-midi, comme je vous disais, en collaboration avec la police nationale et les réservistes experts en cybersécurité de la police judiciaire.
D'accord.
Et on va y associer des entreprises expertes en cybersécurité du territoire. L'idée, c'est dans un premier temps de sensibiliser les entreprises sur vraiment la question de la cybersécurité d'entreprise, de leur expliquer quels sont les différents types d'attaques et quels sont les parades ou comment pouvoir se mettre une protection minimum dans l'entreprise. Et ensuite, de les faire rencontrer des entreprises du territoire qui sont expertes en cybersécurité, qui vont pouvoir à la fois leur apporter un premier contact, des conseils, et éventuellement pouvoir les aider par la suite dans la mise en place de process afin de se protéger par rapport à ce type d'événement.
Oui.
C'est un événement qui va être vraiment relayé sur tout le territoire parce que c'est un événement important et c'est un événement qu'on organise aussi dans le cadre du programme FEDER qui vise à soutenir le développement économique des territoires et la compétitivité des entreprises.
Vous avez déjà lancé les invitations pour cette journée ?
On a commencé à lancer les invitations, en effet, via nos réseaux sociaux et via la newsletter de la CCI Paris-Île-de-France.
Réagit plutôt bien.
Alors, on est tout juste dans le début. Hein. On a lancé ça juste cette semaine. Donc, ça va monter en puissance. Oui, c'est vrai qu'on est en période de vacances. On va monter en puissance. Donc, on peut retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux de la Chambre de commerce, sur la newsletter de la Chambre de commerce et aussi sur tous les supports de communication, réseaux sociaux, newsletter des digiteurs. Puisque les digiteurs, nous ne l'oublions pas, c'est l'offre numérique de la CCI Paris-Île-de-France. Donc toute la partie numérique qui concerne les entreprises est mise en avant et traitée par les digiteurs.
Merci Jérôme. Je vous propose qu'on fasse une pause et puis on va essayer d'en savoir plus sur cet événement, à quel endroit, quand, pour qui et comment s'inscrire. À tout de suite. Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? l'économie en direct et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir, c'est une spéciale CCI, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Pradel, conseiller expert numérique Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, Marion Laget, dirigeante de Antana, pardon, et Lydie Arceo, responsable formation continue à l'ESIEIT. Jérôme, on vient de parler de ce fameux événement qui va avoir lieu le 28 mai pour sensibiliser les entrepreneurs au risque d'attaques cyber. Alors, il se passe où cet événement ?
Alors, ça va se passer le 28 mai à la CCI de Cergy, la Chambre de commerce du Val d'Oise, de 14h à 18h.
Très bien.
Vous êtes les bienvenus. On vous y attend nombreux avec, en effet, tous nos partenaires qui vont vraiment essayer de faire de cet événement un événement riche d'informations et riche aussi de contacts, puisque ce type d'événement, il ne faut pas l'oublier, c'est un événement pour les entrepreneurs dans lequel vous avez aussi la possibilité, et c'est ce que je conseille toujours aux gens, d'en profiter justement pour agrandir votre réseau, à la fois agrandir vos connaissances, mais aussi agrandir votre réseau.
Vous disiez que ça n'est pas réservé aux grosses entreprises, donc c'est, on l'a dit, TPE, PME essentiellement. Est-ce que par exemple les commerçants, les artisans sont concernés ?
Oui, tout à fait. Ça se passe un mardi, donc pour un commerçant, c'est pas toujours évident, c'est toujours un peu plus compliqué de se déplacer sur ce type d'événement. Mais pour ceux qui en ont la possibilité, faut pas hésiter à le faire parce que eux aussi sont concernés par ce type de problématique.
Et alors comment faut-il s'inscrire ?
Alors, on peut s'inscrire directement depuis le site de la Chambre de commerce du Val d'Oise, où ce sera relié aussi sur le site des Digiteurs.
Très bien. Et vous-même, Jérôme, vous allez intervenir, bien sûr, pendant cet atelier. À quel niveau ?
Alors, moi, je vais être présent pour, en effet, conseiller un petit peu et orienter les entreprises. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant aussi sur cet événement à la fois les services de la police nationale et de la police judiciaire qui viennent, je tiens à le préciser, qui interviennent à titre bénévole dans cet événement, mais aussi de mettre en avant les entreprises du territoire parce qu'on a des entreprises expertes sur ce territoire qui sont là et qui sont vraiment là pour aider les entreprises à avancer et à traiter réellement ce sujet. Donc nous, Chambre de commerce, c'est aussi notre travail de mettre en avant les entreprises pour les aider à se développer.
Bien sûr, bien sûr. Alors, vous parlez de la police nationale. En revanche, vous ne faites pas intervenir la gendarmerie du pôle de Pontoise.
Alors, c'est vrai qu'il y a police nationale et gendarmerie. Oui. La gendarmerie a fait un événement il n'y a pas très longtemps. D'accord. Au niveau de la Chambre des métiers. Oui. Donc, on s'est dit, on va faire un coup là, un coup
dupliquer,
l'autre.
Oui, je comprends.
L'idée, c'est pas non plus de faire de la redite à chaque fois et de répéter toujours la même chose. Sinon, ça devient un peu embêtant pour les chefs d'entreprise. L'idée, c'est aussi d'apporter un petit peu de nouveauté. Oui, oui. Et c'est vrai qu'on n'entend pas forcément, on n'entend pas souvent parler de la police nationale sur ce genre de sujet, alors que c'est aussi des sujets qui les concernent, puisque en cas d'attaque, bien souvent, l'un des réflexes qu'il faut avoir, c'est de déconnecter son ordinateur d'Internet, de ne surtout pas l'éteindre, et d'appeler soit un expert en cybersécurité, soit d'appeler la police, et puis de porter plainte derrière.
D'accord. Donc, vous venez nous donner un conseil précieux déjà. Donc, déconnecter son ordinateur, mais pas l'éteindre.
Surtout ne pas l'éteindre, puisqu'en éteignant votre ordinateur, vous pouvez supprimer du cache ou enlever, faire disparaître des données qui peuvent être intéressantes dans le cadre d'une enquête.
Donc, quand vous dites déconnecter, c'est
vous coupez le Wi-Fi ou vous déconnectez votre câble réseau, vous déconnectez la machine du réseau.
D'accord. Très bien.
Toutes les machines du réseau, d'ailleurs, si vous en avez plusieurs.
Voilà, vous m'aurez appris quelque chose. Merci Jérôme. On va continuer cet entretien avec nos deux autres invités. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée ?
Je voulais juste préciser, et c'est aussi un élément qu'on traitera lors de cette journée, c'est qu'il existe, la région Île-de-France a lancé deux chèques cyber.
D'accord.
Qui permettent aux entreprises de réaliser un diagnostic et de mettre en place et de financer la réalisation d'un diagnostic, pardon, et de financer la mise en place de certaines structures de protection.
Oui.
Donc, c'est aussi des éléments qu'on reprendra au cours de cette journée et qu'on peut retrouver sur le site de la région Paris-Île-de-France.
Des chèques cyber, vous en connaissez le montant ?
Il y en a un qui va jusqu'à 10 000 euros pour l'installation et pour le diagnostic, ça va jusqu'à 5 000 euros.
D'accord. Bah écoutez, c'est là aussi, c'est une belle information qu'on va retenir et qu'on produira, qui se retrouvera sur le podcast, bien évidemment. Merci Jérôme pour tous ces
Merci.
Conseils et puis on reste, bien sûr, vous interviendrez peut-être avec Marion et Lydie. On marque une nouvelle pause et on se retrouve juste après.
Le temps pourrait finir par nous figer. Le monde entier pourrait bien essayer. On a ceux qui ont du mal à trouver. Ça au-delà.
Quand tu parles, ma terre se met à trembler. Dans tes larmes, je pourrais me noyer. Ce que tu fais, même quand c'est pas assez, ça vaut de l'or.
Ça vaut de l'or.
Recommencer, partir de zéro.
Quand moi je m'amuse de tes défauts,
je suis touché, t'as coulé mon bateau. Mais ça vaut de l'or.
IDFM Radio, le média valdoisien.
C'est l'économie en direct avec une spéciale CCI 95 consacrée au risque cyber en entreprise avec à mes côtés trois experts. Jérôme Pradel, conseiller expert numérique Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, qui met en place des stratégies innovantes et adaptées aux besoins de chaque entreprise, dont celles liées au risque cyber. Marion Lager, dirigeante de Antana, entreprise spécialisée en sécurité informatique et cybersécurité, qui accompagne la CCI 95 lors d'ateliers en lien avec la cybersécurité. Et Lydie Arceo, responsable formation continue à l'ESIEIT, école de la CCI Paris-Île-de-France, qui forme des ingénieurs, entre autres, hein, je crois, dans l'expertise numérique. Marion, focus sur vous, Marion Lager. Alors, vous-même, vous êtes ingénieur en système d'information. Vous avez aussi fait une école de commerce. Votre entreprise Antana et puis Antana Event font référence aujourd'hui, je crois, en termes de cybersécurité.
Oui, on a par la force des choses. Donc Antana, c'est une société de services informatiques qui a été créée il y a une vingtaine d'années maintenant, une société du Val d'Oise. Et puis par la force des choses, avec l'évolution et l'augmentation du risque cyber et le besoin de protéger les données, on s'est effectivement spécialisé sur tout ce qui est infrastructure, système et réseau et puis gestion du risque cyber. Et j'aime bien élargir un peu le débat sur gestion du risque numérique,
oui.
Parce qu'il y a effectivement les attaques et donc les actes de malveillance, mais il y a aussi tout simplement la mauvaise utilisation ou le défaut d'utilisation, de suppression de données ou autre. Et si nos données ne sont pas protégées, sauvegardées, on peut se retrouver dans des situations assez critiques. Et donc oui, bah, effectivement, on accompagne donc maintenant depuis 20 ans sur tout ce qui est au départ transition numérique et digitalisation, puisque aujourd'hui il y a énormément de sociétés qui sont tributaires de l'outil informatique, qui parfois est même leur outil de production, dans des professions type expertise comptable ou avocat. Sans ordinateur, ils ne savent plus travailler.
Voilà. Donc, on disait avant l'émission que c'est un petit peu comme l'eau et l'électricité. On est complètement perdu quand on n'en a plus accès.
Tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, on peut aussi parler on en discutait tout à l'heure, de la connectivité et comment est-ce qu'on fait si demain on n'a plus de connexion possible, plus de connexion Internet. Et donc, du coup, le risque cyber, on l'a vu croître. De manière très significative. Bien entendu, comme le disait et le rappelait Jérôme Pradel, l'arrivée des Jeux Olympiques ne fait que augmenter ces cyberattaques qui sont de plusieurs types. Donc il y a des cyberattaques très classiques. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde pourrait témoigner sur des campagnes de phishing qui sont donc de faux mails.
Oui.
Je lisais récemment qu'il y avait eu, je sais plus dans quelle ville d'Île-de-France, des campagnes tout simplement d'impression sur les voitures avec des QR codes. Des QR codes, si vous flashez un mauvais QR code et qu'il y a un crypto-locker, vous pouvez vous retrouver dans des situations assez bloquantes. Et là, très récemment, une montée en puissance des ce qu'on appelle plus des attaques massives, qui sont d'essayer de craquer en fait des mots de passe pour rentrer après sur les systèmes des entreprises et puis aussi même pour des données personnelles.
La protection des données personnelles
qui est importante aussi.
J'avais retenu un argument, j'avais assisté à la conférence organisée par Plaine Vallée là il y a un peu plus d'un an et demi, presque deux, et un des experts avait dit pareil que l'important c'est de pas savoir si on allait être attaqué mais quand, et il disait qu'en fait il y avait des robots renifleurs toute la journée qui reniflaient nos ordinateurs pour trouver la faille et puis rentrer dans cette faille.
Oui, tout à fait. En fait, c'est effectivement. Et puis l'IA, quelque part, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, les aide à justement traiter toutes ces données. Et souvent, la sensibilisation, comme on disait tout à l'heure, est un vrai sujet. Mmh. Prendre conscience qu'aujourd'hui, ce risque, il existe. Il faut que les chefs d'entreprise et les dirigeants le traitent, comme on traite tous les autres risques en tant que dirigeants, qui peuvent être des risques économiques, industriels, psychosociaux ou autres. Le risque cyber doit être intégré. Et quand on entend une fuite de données, même à titre tout à fait individuel, on ne se sent pas forcément concerné.
Ouais.
Et pourtant, souvent on l'est quand on a des grosses attaques de sites Amélie ou de gros sites internet, la Fnac, Darty ou que sais-je, vous pouvez avoir derrière votre mot de passe et votre identifiant de connexion à ces sites grand public qui se retrouvent dans ces fuites de données. Et puis, bah, derrière, c'est effectivement des moulinettes et des renifleurs, comme vous dites, Jacqueline, qui derrière essayent, hein, ce couple identifiant mot de passe. Et puis, bah, une fois sur je ne sais pas combien, ils vont gagner. Et puis, ils vont pouvoir derrière rentrer sur votre boîte mail, puisqu'ils ont vu que c'était tel fournisseur d'accès. Et donc, du coup, après, avoir accès à votre boîte mail et donc à toutes vos données personnelles. Donc, il faut vraiment aujourd'hui se sentir concerné. Et c'est vraiment important d'être sensibilisé à ce risque.
Quand vous dites ça, Marion, est-ce que ça veut dire que on nous demande toujours d'enregistrer notre mot de passe, il faut surtout pas le faire?
Alors, pour la boîte mail, j'ai vraiment comme conseil d'avoir un mot de passe unique qui doit vraiment être jamais utilisé ailleurs. Et qui possiblement devrait être que dans votre tête, en fait.
C'est ça.
Parce que effectivement, la boîte mail, très souvent, que ce soit la boîte mail professionnelle ou personnelle, il y a énormément d'informations qui transitent. Et derrière, le risque, c'est l'usurpation d'identité. Oui. L'usurpation d'identité à titre tout à fait personnel, mais bien entendu du dirigeant d'entreprise.
Oui, ils sont très forts, hein. Ils inventent des stratégies incroyables. Alors, je voudrais revenir sur l'information que je donnais à propos des 80% des entreprises françaises ayant un responsable de la sécurité des systèmes d'information qui ont déjà constaté une cyberattaque. Et Jérôme disait que on a pu être attaqué, mais on s'en est pas rendu compte. Alors comment ça, c'est possible?
Alors, on peut être victime d'une fuite de données et effectivement ne pas s'en rendre compte. Bon, normalement, quand même, quand on a tous les outils en place, on est quand même censé s'en rendre compte. En revanche, ce qui peut se passer, c'est une cyberattaque ou un piratage avec des attaquants qui restent dans le réseau. En fait, ils peuvent s'introduire via une faille très souvent qui vient d'Internet ou d'un phishing ou autre. Et puis, ils vont progressivement rentrer dans le réseau, analyser comment ça fonctionne et puis crypter des données. Et puis, un jour, ils vont appuyer sur le bouton. Et puis là, on est dans le cadre de tout ce qui est rançon logiciel. Donc, c'est-à-dire, vous payez la rançon et je vous rends vos données. Donc, l'idée, c'est d'être le plus autonome et le plus indépendant par rapport à ce type de situation et de risques qui peuvent arriver, comme vous l'avez signalé et comme le rappelait Jérôme, c'est pas si on va être attaqué, c'est quand. Donc comment est-ce que je vais faire et comment est-ce que je gère ce risque? Votre activité n'a pas la même sensibilité face à telle ou telle donnée, donc ça veut dire que dans un premier temps, il faut déjà analyser quelles sont les données vitales de l'entreprise.
Fait partie de votre mission quand vous êtes chez un client.
D'aider les clients à prendre conscience de ce risque et de dire, je prends souvent un exemple bête qui sont les données papier. Fut un temps, on archivait des données papier, je ne sais où, dans des entrepôts au milieu de la campagne, parce que ça coûtait beaucoup moins cher de les mettre dans un entrepôt que de les mettre en plein cœur de Paris. Et on rappelait ces données quand on en avait besoin, on rappelait la boîte papier. Je suis désolée pour l'exemple qui est un peu vieux,
mais j'ai connu au début
de ma carrière. Et aujourd'hui, il faudrait raisonner un petit peu de la même façon, en fait. Donc, c'est de dire, vous avez des données qui ont une vraie valeur. Ces données-là, il faut les protéger, les mettre dans des data centers protégés avec tous les outils de protection, de techniques les plus innovantes possibles. Et en revanche, vous avez plein de données qui ne nécessitent pas et qui n'ont pas de valeur et qui ne nécessitent pas de réplication, de sauvegarde ou autre. Et il ne faut pas leur apporter plus d'intérêt, ni d'un point de vue technique, ni d'un point de vue financier, parce que mettre des données à l'abri, ça coûte de l'argent. Et les data centers, c'est cher, ça pollue. Et donc, du coup, c'est important aussi d'être responsable par rapport à cette gestion de criticité des données. Et donc, oui, on essaye d'accompagner nos clients et de les sensibiliser à ça et de trier avec eux ce qui est important ou pas et dans quel ordre est-ce qu'on va repartir le jour où il se passera quelque chose. Donc, derrière, on rentre dans de la gestion de crise cyber.
Complètement, oui. Donc, et en même temps, ça a l'air passionnant ce que vous faites parce que c'est... vous êtes au cœur de l'économie de l'entreprise.
Oui, on est au cœur de l'économie de l'entreprise et en même temps... J'insiste encore sur l'importance de la prise de conscience du dirigeant. Vous parliez tout à l'heure des entreprises qui ont un responsable informatique ou un responsable des systèmes d'information. Toutes les entreprises n'ont pas en interne un responsable du système d'information. Et quand bien même ils ont un directeur des systèmes d'information, c'est important que le dirigeant soit conscient des décisions qui sont prises. Il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de mauvaise solution. Mais en revanche, il faut encore une fois, analyser. J'ai décidé cette année de ne pas mettre de budget sur telle solution technique qui me permettrait de protéger mes données. Soit, c'est votre choix de dirigeant. Mais en revanche, vous avez bien mesuré le risque et est-ce que vous êtes prêt à le prendre ? Et donc, mettre en place ce qu'on appelle un PRA, donc un plan de reprise d'activité, ou un PCA, un plan de continuité d'activité. De manière très simple, le plan de continuité d'activité, c'est le jour où vous avez une cyberattaque, comment je fais pour continuer mon activité, quand bien même elle est dégradée. Et le plan de reprise d'activité, c'est comment je fais pour repartir complètement en situation standard. C'est très important de se poser ces questions et on peut avoir des moyens, entre guillemets, simples. On accompagne aujourd'hui des sociétés qui peuvent aller d'une personne à 150 postes ou 200 postes. Donc, ce n'est pas tout à fait le même métier, ce n'est pas les mêmes budgets. Et notre valeur ajoutée en TANA, c'est justement de s'adapter à la taille des différentes entreprises. Et un indépendant, il faut qu'il sauvegarde ses données, il faut qu'il soit déconnecté à un moment et qu'il puisse repartir. Peut-être ce sera que tous les jours ou tous les, et non pas toutes les heures, parce qu'il accepte de perdre ses données de production une journée.
Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, Marion, je pense que Jérôme et Lydie vont être d'accord avec moi, c'est que vous le dites d'une façon très accessible, c'est-à-dire, vous n'utilisez pas de termes. Des fois, on a affaire à des experts qui parlent dans des termes compliqués. Et là, voilà, c'est très clair. C'est votre langage est vraiment accessible. Voilà.
Parce que quelque part, l'expertise, laissons-la aux experts. Hein. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai des équipes d'ingénieurs systèmes et réseaux, certains même qui viennent d'ailleurs de l'ECIT, et avec qui on est partenaire également. Mais donc ça, c'est leur métier à eux. Nous, nos métiers de dirigeants, hein, c'est justement de prendre conscience, de gérer ce risque. Et effectivement, nous, on a grandi quelque part avec l'évolution de ce risque. On a été labellisé expert cyber par cybermalveillance.gouv.fr en 2020. Donc, on a été dans les 50 premières sociétés françaises à être labellisées. Et on est passionnés, effectivement, d'accompagner nos clients et nos entreprises sur cette prise de conscience et sur les solutions qu'on peut mettre en place avec eux.
Le fait que vous soyez comme ça labellisé, ça veut dire que des grosses institutions, même gouvernementales, pourraient faire appel à vous ?
Alors, le label est gouvernemental. Oui. Donc, c'est effectivement cybermalveillance. Et maintenant, non. Sécuriser leur système, oui, non. Oui. Parce qu'en fait, nous, on travaille vraiment plus avec des TPE-PME. Et ce que disait Jérôme Pradel en introduction est extrêmement important. C'est de dire que la cybersécurité, c'est pas nouveau. Les grosses entreprises sont allées un peu plus vite que nous, les plus petites entreprises, sur ces sujets-là. Aujourd'hui, ils ont plus de moyens. Ils sont mieux sécurisés, quoique vous le voyez tous les jours dans la presse, on a des énormes attaques. Mais quelque part, ils sont plus prêts à gérer ces crises, ne serait-ce que parce qu'ils savent gérer des crises, ce qui n'est pas toujours le cas dans une TPE-PME.
Oui, parce qu'ils ont toute la structure pour
la méthode,
et puis le personnel aussi pour gérer tout ça.
Et aujourd'hui, les attaquants le savent, c'est plus facile de rentrer chez des petits. Je lisais pareil un moulin en Seine-et-Marne, je crois, qui a été attaqué par des Russes là très récemment. Et pourquoi ? Parce que là, pour le coup, c'était ciblé. Je vois Jérôme qui opine du chef, et parce qu'ils voulaient attaquer cet endroit-là, parce que pensant qu'ils auraient un gros impact en termes de production d'énergie ou autre. Et c'est avéré que ça a été pas été le cas. Mais c'est une toute petite structure quelque part.
Merci Marion, je vous propose qu'on fasse une pause. C'est très très intéressant, on va continuer là-dessus, mais on fait juste une pause avant. À tout de suite.
Thank you. it won't approach me, throw me a line. But there's something inside you, grab your sense, who am I? I know exactly, cause it happens with all my guys.
C'est toujours l'économie en direct et je suis ce matin en compagnie de Jérôme Radel, expert numérique à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, Marion Laget, dirigeante de Antana, et Lydie Arcero, responsable formation continue de Easier IT. J'ai retenu que je disais IT, c'est IT. Donc Marion, on va revenir sur cet événement qui va avoir lieu le 28 mai, dont vous ferez partie en tant qu'expert cyber. Les questions qui vont être posées, c'est êtes-vous en capacité de décliner les différents types d'attaques et d'attaquants? Quelles sont les règles d'hygiène numérique? Est-il possible de se préparer à une attaque et si oui, comment? Tout ça, ça va être développé dans le cadre de cette rencontre qui, j'ai cru comprendre, n'était pas qu'une table ronde.
Oui, alors bon, je laisserai peut-être Jérôme plus détailler, revenir sur le format, mais effectivement l'idée de la CCI, c'était de dans le cadre de cette sensibilisation et cet événement, c'était d'avoir une partie table ronde et aussi une partie atelier avec différents acteurs de la cybersécurité dont on fait partie dans le cadre de notre partenariat avec la CCI du Val d'Oise. Et donc pour effectivement pouvoir vraiment échanger avec les entreprises sous forme d'atelier. avec, comme vous le disiez Jacqueline, les différents types d'attaques, hein, les différentes réponses qu'on peut avoir, et puis des simulations aussi, et avoir des ateliers un peu ludiques pour pouvoir toucher du doigt réellement ce qui peut se passer quand on a une attaque. Donc ouais, c'était ouais. effectivement l'idée quand... quand ça a été réfléchi par la CCI du Val d'Oise.
À l'époque. Et vous, Jérôme, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois.
Oui, l'idée, c'est vraiment de sortir un petit peu de cette idée table ronde, information descendante, et de sensibiliser le chef d'entreprise en lui faisant un petit peu, comme le disait Marion, toucher du doigt un petit peu la problématique et de montrer un peu concrètement ce qui pourrait arriver. Simplement par exemple avec le fait de brancher un câble sur son téléphone ou sur son ordinateur, chose auxquelles
on pense pas forcément
parce que pour tout le monde un câble c'est un câble, ça n'a rien d'extraordinaire, sauf que ça peut parfois être assez dangereux de brancher simplement un simple câble de rechargement. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider les chefs d'entreprise à comprendre un petit peu et à voir un petit peu concrètement qu'est-ce qui pourrait se passer dans leurs entreprises.
Et peut-être d'ailleurs certains chefs d'entreprise pourront eux-mêmes témoigner d'expériences qui peuvent leur arriver, d'avoir besoin de conseils ou autres. Et donc du coup, dans le cadre de ces ateliers, l'idée, c'était d'échanger avec... avec les entreprises.
L'idée, c'est vraiment voilà, que les entreprises puissent échanger avec les différents experts qui seront présents pour toucher vraiment cette problématique et de se dire, bon, ok, maintenant, je suis conscient de ce qui peut arriver. Je me rends compte que j'ai aucun système de protection, que j'ai aucune stratégie. Bon, comment je fais maintenant pour mettre des choses en place pour pouvoir protéger mon entreprise à l'avenir?
C'est ça. Et vous parliez du coût financier, mais finalement, il faut voir le coût financier de en cas d'attaque. Je parle de coût financier pour apporter vos services, mais finalement, c'est rien par rapport au coût financier subi si on est attaqué.
Le coût financier subi pour se remettre après en activité et puis la perte d'exploitation, tout simplement. Et il y a un vrai sujet là-dessus aussi, hein, c'est-à-dire que les assurances cyber et la couverture du risque cyber.
Ouais. Est-ce qu'ils assurent ce genre
Oui, ils assurent. Oui. Alors, on ne va pas se mentir, hein, les primes d'assurance cyber ont explosé au même titre que le risque cyber a explosé. On comprend assez aisément pourquoi. Et c'est quelque chose qui vient en complément des solutions de protection de données ou de sécurité. C'est pas parce qu'aujourd'hui je mets toutes les mesures en place pour protéger mes données que ça ne m'arrivera pas. Et donc le jour où ça m'arrive, si j'ai besoin de dépêcher un expert pour auditer mes systèmes et remettre en production, tout ça va générer des coûts supplémentaires. Et donc ces contrats d'assurance cyber sont là pour couvrir ces coûts, et donc c'est important de bien étudier les garanties qui sont dans ces contrats. Et j'invite tous les auditeurs à se poser la question là-dessus et se rapprocher de leur assureur, hein, puisqu'aujourd'hui il y en a de plus en plus qui couvrent ce risque. Et au moins, encore une fois, se poser la question. Est-ce que j'assure cyber mon entreprise ou non? Il faut se poser la question. Et puis après, il n'y a pas de mauvaise décision. Chacun décide ce qu'il a envie de faire en tant que dirigeant d'entreprise.
En vous écoutant aussi, je me dis que on est en comparatif avec une entreprise qui prendrait feu, en fait, qui aurait un incendie. C'est le même risque.
Oui, bien sûr. Un incendie, un cambriolage, c'est pour ça que souvent je dis...
Qui prend feu ne se relève souvent pas.
C'est pour ça que j'aime élargir le débat au risque numérique. Parce qu'il y a l'incendie, il y a l'inondation, il y a le cambriolage. Si vous avez des serveurs 100% en interne, ce qui arrive encore dans certaines entreprises, et que vous faites voler votre serveur ou qu'il y a un incendie, pour se redresser, c'est compliqué. Et pour la petite histoire, c'est la raison d'être d'Antana au départ, qui a été créée par Alexandre Bourri, parce que dans son entourage proche, une société familiale avait eu effectivement une inondation. Et donc, ils n'étaient pas prêts à l'époque, il y a 20 ans. On était encore quasiment à la DSL. Hein, donc, ils n'étaient pas prêts à couvrir ce risque, finalement. Et donc, du coup, la raison d'être d'Antana, au départ, c'est d'aider les clients à réfléchir et à protéger leurs données et à sauvegarder les données. Donc, au départ, c'était de la sauvegarde pure et dure.
Oui,
il y a 20 ans.
Avec tous les risques de, enfin, la situation internationale est très tendue, hein, avec tous les conflits qu'on connaît actuellement. Est-ce que on entend souvent parler d'un possible blackout total? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est...
Je préfère pas y croire. Je préfère pas y penser, mais j'y crois.
Ouais.
Il peut y avoir des situations critiques et notamment sur des institutions clés. Donc, on pense à l'électricité, la santé, enfin, l'hydraulique ou autre. On a fin d'année NIS 2 qui est donc la certification de l'Union européenne. Qui rentre en vigueur justement pour des sociétés de... Je ne suis pas experte pour le coup sur le sujet, mais des sociétés de plus 50 collaborateurs et puis surtout certains secteurs d'activité. Et donc, il y a aussi une prise de conscience à ce niveau-là et beaucoup de choses qui sont faites pour que la France retrouve une souveraineté numérique, hein, avec un dispositif d'ailleurs dans le cadre de France 2030 qui a été mis en place par notre gouvernement, voilà, auquel on est aussi...
Associé,
ouais, exactement. Et donc, c'est toutes ces institutions et toutes ces réglementations sont là pour justement essayer de couvrir ces risques. Donc non, je peux pas le croire.
Non. Alors Marion, on a l'impression que vous, enfin encore une fois, c'est pas une impression, vous maîtrisez parfaitement votre sujet. Et cependant, vous avez quand même besoin d'étendre votre réseau valdoisien.
Alors oui, d'étendre notre réseau valdoisien dans le cadre du développement de notre structure, tout simplement, et aussi pour les partenariats, parce que justement, on reste une société informatique très spécialisée dans tout ce qui est infrastructure, système et réseau, sécurité. Or, notre positionnement vis-à-vis de nos clients, c'est de les aider d'une manière beaucoup plus globale, hein, sur l'intégration des outils informatiques et du numérique. Donc typiquement, on a vu un sujet très très basique qui est la téléphonie, qui aujourd'hui est 100% par Internet, hein, et donc du coup qui demande des compétences complémentaires. Hein, et pour le coup, nous, on a fait ce choix de travailler avec des partenaires et de rester spécialisés, nous, sur la partie système et réseau. Et donc du coup, c'est aussi étendre notre réseau de partenaires sur de la téléphonie, d'autres sujets qui pourraient être complémentaires.
Le RGPD aussi, c'est perçu comme une contrainte souvent, de moins en moins.
Oui, à tort. Oui, alors c'est un avis tout à fait personnel, mais à tort, parce que finalement le RGPD c'était 2018, donc maintenant ça commence à, quand même censé être tous conformes au RGPD. Et pour le coup, ça aura fait prendre conscience de la nécessité de protéger les données personnelles, alors que finalement, les données de l'entreprise sont aussi importantes.
Oui.
Donc, ça aura été, nous, en tous les cas, chez Antana, on aura vraiment pris la réglementation RGPD comme un levier, au contraire. Il y a trois volets sur le RGPD, juridique, technique et organisationnel. On apporte le volet technique et oui, on a besoin de partenaires et on travaille avec des partenaires pour le volet juridique et le volet plus d'organisation.
Et alors, par rapport à la directive européenne NIS 2, la dernière fois que je vous avais interviewé, vous disiez que c'était loin, mais voilà, ça arrive.
Ça se rapproche.
Ça se rapproche, très bien. Merci infiniment Marion pour ces explications vraiment limpides et qui mettent vraiment l'accent sur l'importance de se prémunir de toute possibilité d'attaque cyber. Et je voudrais rajouter à titre personnel que voilà, vous êtes une équipe formidable et qui réagit au quart de tour quand on a besoin de vous. Donc merci infiniment.
Jacqueline.
On marque une nouvelle pause et on retrouve Lydia Arceo juste après. Vous nous rejoignez peut-être, c'est l'économie en direct et aujourd'hui nous parlons de cybersécurité à travers la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise et je suis toujours en compagnie de Jérôme Pradel, conseiller expert numérique Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise qui met en place des stratégies innovantes et adaptées aux besoins de chaque entreprise, dont celles liées aux risques cyber. Marion Laget, dirigeante de Antana, entreprise spécialisée en sécurité informatique et cybersécurité, qui accompagne la CCI 95 lors d'ateliers ou de tables rondes en lien avec la cybersécurité, et Lydie Arceo, responsable formation continue à Lésier IT, école de la CCI Paris-Île-de-France, qui forme entre autres des ingénieurs dans l'expertise numérique. Alors Lydie, je me tourne vers vous à présent. Lydie, vous êtes votre parcours académique, c'est vous avez un master en négociation en environnement public, et vous êtes aujourd'hui responsable formation continue dans cette école. Peut-être quelques mots sur vous, sur votre parcours.
Oui, tout à fait. En fait, donc, je suis en charge de la formation continue au sein de l'école SCIT, qui fait effectivement partie de la Chambre de commerce de Paris, la CCI Paris-Île-de-France. Mon parcours, alors tout simplement, moi, en fait, la CCI était mon client auparavant. Et donc, du fait de
parce
ma spécialisation.
Vous étiez où pour que ce soit votre client?
je faisais partie d'un organisme de formation en informatique également, située à La Défense. Et donc, effectivement, la CCI était mon client. Et du fait de ma spécialisation, notamment en secteur public, j'ai voulu me rapprocher un peu, justement, de ma spécialisation et passer donc du privé au public, mon intégration au sein de l'ESI IT.
Très bien. Et donc, vous êtes devenue maintenant une experte en formation continue en informatique.
Exactement. Alors, j'étais déjà dans le secteur de la formation et déjà dans l'informatique. Effectivement, c'est différent. On est dans une structure différente puisque j'étais dans un organisme de formation. Aujourd'hui, c'est vraiment une école. On est école d'ingénieurs, mais également centre de formation en alternance et aussi organisme de formation continue. Donc on est vraiment sur les trois volets, donc c'est vraiment différent, mais toujours sur l'informatique technique, dont effectivement la cybersécurité, mais aussi d'autres domaines tels que le numérique responsable, le Green IT, ou les systèmes et réseaux dont on parlait tout à l'heure, la gestion de projet, enfin vraiment tout l'informatique technique.
Le Green IT, expliquez-nous.
Oui, alors le Green IT, c'est vrai qu'on va commencer à en entendre un petit peu plus. Le Green IT, c'est l'informatique, c'est-à-dire quelles sont les mesures, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place au sein d'un système d'information pour faire en sorte de réduire notre impact écologique notamment. Donc par exemple, on parlait tout à l'heure, Marion, des data centers, qui consomment énormément. Donc vous avez aussi des green data centers. Donc aujourd'hui, l'objectif de ces consultants Green IT, de ces responsables Green IT ou des relais au sein des entreprises, c'est de faire en sorte de réduire vraiment l'impact environnemental. Donc il y a énormément de choses qui existent déjà, enfin des labels, notamment le label Lucie ou des choses comme ça, qui existaient déjà, mais aujourd'hui il y a vraiment un objectif de l'étendre tout à fait à l'ensemble de l'organisation. Voilà, donc c'est vraiment la DSI qui est au cœur de cette action, mais c'est vraiment une action organisationnelle qui est importante en fait pour les entreprises aujourd'hui.
Et j'imagine que vous sensibilisez les étudiants qui sont en formation à ce Green IT.
Oui, tout à fait. En fait, il y a des lois, donc notamment la loi REN qui entre en vigueur la 2024, qui va obliger notamment les villes de moins de 50 000 habitants, également toute entreprise en lien avec le secteur du numérique, et il y a un troisième critère. Mais donc typiquement, quasiment toutes les entreprises vont être concernées à un moment, et toutes ces entreprises auront l'obligation d'avoir un plan de sobriété numérique. Et également, à ce titre-là, tous les étudiants doivent recevoir une sensibilisation au Green IT ou numérique responsable. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est ce qu'on dispense. Donc au sein de l'école d'ingénieurs et sur nos formations en alternance, tous les étudiants ont des modules de sensibilisation. Et côté formation continue, en fait, on a toute une filière de formation dédiée à ce Green IT pour sensibiliser ou alors même aller plus loin. C'est des formations plus de plans d'action. Comment mettre en place un plan de sobriété numérique.
Donc oui, voilà. Le but, c'est que l'étudiant, l'ingénieur, s'il devient chef d'entreprise ou même pas forcément, qui tout de suite, il ait le réflexe de ce Green IT.
Exactement, ça fait partie des enjeux. En fait, ça fait partie des nouveaux métiers porteurs. Donc, on commence à en entendre parler. Aujourd'hui, les entreprises ne mettent pas l'ensemble des actions sur le Green IT. On sent qu'il va y avoir quelque chose, mais on n'est pas encore comme sur la cybersécurité où là, de toute façon, on n'y échappera pas. Ouais. Mais Green IT, ça va venir. Oui, ça sera par la suite. Oui.
Et alors, du coup, je m'adresse à Marion. Vous êtes sensibilisée à ce Green IT, Marion, chez Antana?
Alors, sensibilisée de nature, j'ai envie de dire. Oui. On avait fait, il y a quelques temps, un Green Friday pour aller un peu à contre-courant des Black Friday, où on avait proposé à nos clients de récupérer tout leur ancien matériel pour après le doter dans des écoles, puisque une machine qui est plus fonctionnelle pour un avocat ou un expert comptable peut l'être pour des écoliers ou autres, bref. Donc très sensible à ces sujets-là. Et comme je disais tout à l'heure, dans le tri des données, c'est un des leviers. C'est-à-dire que vous stockez pas pareil 10 téras de données ou 500 gigas de données. Et dans les arguments, il y a l'argument économique, parce que ça coûte moins cher à l'entreprise de stocker 500 gigas plutôt que 10 téras si elle n'a pas besoin finalement de ces 10 téras de manière très productive. Ça coûte moins cher. En cas de crash, on peut les remonter plus vite. Et puis surtout, on stocke moins en data center. Et en data center, on réplique.
C'est
donc
ça,
du
oui,
coup,
ça,
de fait,
c'est vrai, oui.
De
si,
fait,
c'est
on sensibilise horrible. Nos clients beaucoup là-dessus.
Quand
en disant
on,
que,
on enregistre un mail et puis là, c'est au niveau du particulier.
Oui, ouais, bien sûr. Et du coup, je rejoins effectivement Lydie. Souvent, quand on amène ces trois arguments à nos clients de reprise d'activité, d'économie budgétaire et de responsabilité écologique. Bon, l'économie budgétaire l'emporte.
C'est clair.
Encore
c'est
aujourd'hui, vrai. Mais ça va changer.
C'est clair. Et du coup, je m'adresse aussi à Jérôme. La CCI 95, elle est sensibilisée à ce Green IT.
Alors, la CCI 95, en effet, est sensibilisée sur
la CCI en général, même d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, la CCI Paris-Île-de-France, sachant que nous aussi, on essaye à tous les niveaux de sensibiliser les entreprises sur le développement durable, sur tous ces sujets. Mmh. On a d'ailleurs un conseiller expert qui est aussi là pour accompagner les entreprises sur tous les sujets, oui, bien sûr.
Voilà, un sujet qui mérite d'être encore développé, hein, Lydie.
Tout à fait.
Alors, on parle beaucoup des métiers de l'informatique, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, les métiers de l'informatique ?
Effectivement, on parle beaucoup de l'informatique au sens large. C'est vrai que l'informatique, c'est compliqué à appréhender. On dit informatique, on va penser en tant que particulier à ce qui est le plus facile pour nous, le plus accessible, donc Internet, ce qu'on peut avoir sur les téléphones mobiles, etc., les tablettes. Mais en fait, ce qui est plus difficile, c'est de voir quels sont justement les métiers, notamment pour les jeunes, pour les étudiants, savoir vers quel type de métier se porter et quels sont les métiers porteurs. Donc aujourd'hui, vous avez un grand nombre de métiers porteurs, puisque l'ensemble du secteur est porteur. Donc, aussi bien côté donc, développement, des développeurs notamment logiciels ou mobiles. Vous avez les analystes de cybersécurité ou les ingénieurs cybersécurité qui monteront en compétence et deviendront responsables, par exemple, cybersécurité. Vous avez tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, les ingénieurs en intelligence artificielle, pour faire simple, mais il y a une multitude de métiers derrière. Après, vous avez tout ce qui va concerner, du coup, on en parlait, le Green IT. Donc, tous les consultants Green IT. Donc, vraiment, c'est un panel de métiers qui est très étendu, qu'on ne connaît pas forcément. Les développeurs, on les voit un petit peu plus, dans les films notamment. Après, les autres métiers, un petit peu moins. Intelligence artificielle, on en parle quand même beaucoup plus.
Beaucoup, oui.
Voilà.
Oui.
Cybersécurité aussi.
Et en même temps, ça reste l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Et ça reste quelque part un peu mystérieux. Hein. On sait que ça fait tout
exactement.
Et on ne sait pas bien quoi.
C'est ça, exactement. On connaît plus pour ChatGPT ou des choses comme ça.
Ouais.
Après, l'intelligence artificielle, c'est très, très large. On le connaît aussi sur l'IoT, les objets connectés, Alexa,
la domotique. Oui.
Exactement, domotique. Mais ça s'étend, et puis surtout, ça va concerner tous les secteurs, donc toutes les entreprises. quoi qu'il arrive.
C'est une accélération quelque part. Hein.
Ouais. Exactement, on ne pourra pas y échapper, oui, tout à fait.
Mm-hmm. Est-ce que ces métiers de l'informatique sont ouverts à tous et si oui, par quel biais ?
Oui, alors nous, au sein de l'école, on propose des formations, donc côté formation initiale académique de Bac plus 3 à Bac plus 5. Par contre, côté formation continue, là, c'est ouvert, peu importe le niveau académique. C'est-à-dire que vous pouvez venir sur des formations de reconversion. Vous avez par exemple une formation de reconversion développeur full stack qui est sur un an. Et là, peu importe le profil métier, vous pouvez effectivement devenir développeur en un an. Donc c'est un engagement, c'est une formation qui est quand même très dense, très intense. Néanmoins, à la fin, vous avez effectivement les compétences pour être développeur au sein d'une entreprise. Et vous mettez en application parce qu'il y a un stage à la fin de cette année-là. Et donc là, on reçoit des profils divers.
C'est validé par un diplôme ?
Exactement, c'est validé tout à fait par une certification qui a une équivalence en termes de diplôme, parce que c'est un titre RNCP. Voilà, donc c'est un équivalent en fait de Bac plus 2.
D'accord, voilà. très bien. Et donc, c'est ouvert à partir de quel âge ? Enfin, c'est qui peut se présenter ?
Alors, on a vraiment tous les âges. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui se reconvertissent bien plus tard, vers 50 ans. Mmh. On en a d'autres qui ont une vingtaine d'années, qui finalement se disent « je change de parcours académique » et qui viennent en fait sur ces formations-là. On a des personnes qui étaient des anciens, par exemple techniciens informatiques, et qui décident de devenir développeurs. Donc se reconvertir, mais encore une fois dans l'informatique. Il y a vraiment tout profil.
C'est très vaste.
Exactement.
Et c'est donc une formation qui ouvre, avec une garantie d'avoir un CDI derrière.
Exactement. Alors c'est vrai que, étant donné qu'on est sur des
la chance qu'on a. C'est ça qui est important, c'est de savoir que derrière on va avoir un job.
Oui, tout à fait. En fait, la chance qu'on a, c'est d'être sur un secteur porteur. Donc nos formations, quoi qu'il arrive, il y a une vraie recherche en termes de recrutement. Donc forcément, quand vous êtes sur du développement, on a aussi un parcours en business analyse, c'est très demandé, notamment dans les banques et les assurances. Tous ces métiers sont très porteurs. Et donc effectivement, à la fin, le taux d'insertion professionnelle, il est très important, très positif sur ce type de métier, oui, tout à fait.
Merci Lydie, je propose aussi qu'on fasse une pause et puis on va revenir à la formation justement en cybersécurité de Lazy IT. À tout de suite.
Je deviens bleu, un peu folle de toi. On se touche, je sais qu'on se brûle, on se brise en éclats. T'es un joli porté, un très joli porté. And you track me like hell, oh you know it well. Quand tu me regardes, je suis désarmé comme blatté de toi, blatté de toi. On parle toute la nuit de notre histoire, sans dire qu'elle a fini aux flammes with you. I'm blue with you. Je suis belle, tu me dis ça et je saigne. Tu sembles quand mes souvenirs s'en mêlent. Désolée de t'avoir fait de la peine. Tu m'attrapes dans tes filets, maintenant je ne peux plus me défiler. C'est de toi que j'aurais dû me fier. Maintenant c'est trop tard, les cartes ont joué. T'es un joli bordel, un très joli bordel. And you track me like hell, oh, you know it well. Quand tu me regardes, je suis désarmée comme blottée de toi, blottée de toi. La mer.
C'est l'économie en direct et je suis avec Lydie Arceo de Lizzy IT. Alors Lydie, aujourd'hui, ce matin, on parle beaucoup de cybersécurité. Forcément, dans cette école, vous avez une formation, donc on a parlé de tous les métiers informatiques, mais vous en avez une également en cybersécurité. Vous nous en dites quelques mots ?
Oui, tout à fait. Alors, on a des formations donc à destination, comme je disais, des étudiants, donc entre bac plus 3 et bac plus 5. Mmh. Donc là, on va être sur des licences, des bachelors ou des masters. Et côté formation continue, donc formation pour adultes, si on peut dire, là, on a des formations courtes, donc qui vont aller de 1 à 5 jours environ, dont une formation phare qui est référent cybersécurité en TPE-PME, qu'on dispense énormément, qui est notamment éligible au CPF, et des parcours plus longs sur une quinzaine à une trentaine de jours, vraiment sur de la cybersécurité, mais pour des personnes, pour un public déjà averti, qui fait déjà partie d'une direction informatique notamment.
D'accord. Parce que bon, on a bien compris que cette formation en informatique, est devenue essentielle, hein, voire vitale pour les entreprises de toute taille. Est-ce que vous sentez une montée en puissance de demande de ce côté-là ?
Oui, tout à fait. En fait, la formation dont je vous parlais, référence cybersécurité, aujourd'hui sur 5 jours, c'est une formation qui balaye l'ensemble des composantes de la cybersécurité. Mmh. Donc, c'est vraiment à destination de personnes qui n'ont... Enfin, il n'y a pas de prérequis, donc personnes qui ne connaissent pas l'informatique en tant que telle, mais qui s'y intéressent du fait notamment de l'actualité et du fait que ce soit porteur. Typiquement, cette formation-là, elle est vraiment montée en flèche depuis environ 3 ans. Mmh. Et elle est de plus en plus sollicitée aussi parce qu'elle est finançable facilement, notamment par le CPF.
D'accord. Ah oui, très bien.
Tout à fait.
Marion Laget disait que vous aviez des ingénieurs qui viennent de cette école en cybersécurité, justement, Marion.
Alors, ils n'étaient pas spécialisés en cybersécurité. Ils étaient plutôt système et réseau. Mmh. Mais oui, on a eu plusieurs bonnes expériences, notamment avec une alternance qui s'était qui a été embauchée depuis quelques mois maintenant. Et actuellement encore, deux étudiants de l'ESI IT qui sont dans nos équipes et qui ont des formations. Il y a un vrai suivi entre le suivi pédagogique et le suivi en entreprise.
Donc vous recommandez
Nous, on a eu en tous les cas des bonnes expériences. et c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure de développer le réseau, ça en fait partie. Le recrutement, c'est un sujet. Mmh. Et donc, du coup, de pas se poser de questions et d'aller effectivement à des forums ou des portes ouvertes organisées par les CIT nous a permis de recruter des personnes pour l'équipe.
Très bien. Merci Marion Laget. Lydie, je crois que vous avez une actualité à annoncer, mais aussi on va revenir sur, parce que vous disiez que les métiers ne sont pas suffisamment connus, là, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de métiers porteurs. Hein. Comment faites-vous pour présenter ces métiers ?
Alors, ce qu'on fait, c'est que déjà, on a des journées portes ouvertes au sein de l'école. Donc, si tu es à Pontoise, on en fait aussi à Montigny-le-Bretonneux et sur Paris dans le 15e. Donc, régulièrement, on a les dates sur le site internet. Après, on participe aussi à des salons. On a participé récemment au salon RH à Porte de Versailles. Pour sensibiliser justement à ces métiers-là. Et on va un peu plus loin, on travaille aussi en collaboration avec France Travail.
D'accord.
Où là, on va présenter les métiers, justement, alors soit à un public de décrocheurs, de jeunes qui ont quitté l'école,
oui,
en fait,
oui.
Ou alors directement à des conseillers France Travail, donc ex-Pôle emploi, qui vont par la suite conseiller les demandeurs d'emploi vers des métiers porteurs.
D'accord. Voilà. D'accord. Donc là aussi, il y a une filière bien, bien établie et qui fonctionne bien, j'imagine.
Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on essaye de miser aussi sur le local. Donc on travaille beaucoup avec des agences France Travail en local, dans le 95 notamment. Voilà, donc pour présenter justement ces différents métiers qui ne sont pas forcément connus.
Alors, je crois que vous aviez aussi, prévu de parler du Nice dont a parlé Marion.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que parce que c'est d'actualité, Nice 2, on a fait un webinaire récemment, donc un webinaire gratuit. Donc, c'est un petit séminaire, si vous voulez, de 30 minutes en ligne, qui a bien fonctionné parce que effectivement, à partir d'octobre, Marion en parlait, ce sera une obligation. C'est une directive NIS 2 que toutes les entreprises doivent suivre. Donc, c'est important de sensibiliser à ce sujet-là. Après, de manière générale, on organise justement des webinaires sur ces thématiques d'actualité. On en a fait sur le RGPD, notamment, sur la cybersécurité aussi, mais côté industriel, sur différentes thématiques, sur le Green IT aussi, savoir qu'est-ce que le Green IT, justement, qu'est-ce qu'on entend par là. Et donc ça, c'est environ un webinaire chaque trimestre. Et les dates sont sur Webikeo et sur le site SIIT.
Très bien. Et vous avez, c'est bien suivi d'ordinaire ?
Oui, tout à fait. Alors, ça va dépendre des thématiques. Oui, quand on est sur des thématiques plus niches, comme sur l'industrie, là, on a vraiment un public qui est concerné par ce secteur-là. Et donc, la cible est moins étendue quand même. Par contre, sur des thématiques telles que la cybersécurité ou NIS 2, là, effectivement, ça rencontre un franc succès.
Alors, vous êtes aussi avec nous ce matin parce que vous allez participer à cette fameuse journée du 28 mai. Je m'adresse à Jérôme. C'est vous, Jérôme, qui trouvez les intervenants ?
Oui, c'est vrai qu'en tant que conseiller numérique à la Chambre de commerce, je suis plus facilement en relation avec des entreprises qui travaillent sur tout le côté numérique. Donc, la participation aussi de la Chambre sur différents salons fait que aussi on développe aussi notre réseau, nos relations auprès des entreprises. Et l'objectif pour nous, c'est de montrer aussi que le territoire a un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'experts, que tous les experts ne sont pas sur Paris petite couronne, voilà, on peut aussi venir chercher des experts chez nous.
Il faut s'affranchir du côté du parisianisme.
Voilà, c'est ça, tout à fait. On a des experts, on a des entreprises, on a des écoles. L'école de Lessier a fait élue des écoles de la Chambre de commerce. On en a pas mal qui sont finalement de grandes écoles. C'est pas forcément connu du grand public.
C'est vrai.
Donc c'est aussi à nous en tant que chambre de mettre aussi nos écoles en avant et de mettre aussi en avant les expertises qu'on peut acquérir au sein de ces établissements. Donc oui, en effet, Lessier fera partie des quelques entreprises qui vont être présentes ce jour-là à cet événement pour pouvoir en effet renseigner les chefs d'entreprise à la fois sur tout ce qui est un peu en effet côté cyber, mais aussi sur le côté formation continue, parce que c'est aussi important de se former, quel que soit son métier, son activité dans le numérique. L'évolution est constante. Sur certains domaines, l'évolution est plutôt longue. On a des évolutions tous les 2 ans. Par exemple, si on prend des domaines comme la cyber ou l'IA, les évolutions, on n'a plus de créneaux qui sont de 1 ou 2 ans. C'est des créneaux qui sont de 6 mois.
Ah oui, ouais.
Donc, les mises à jour, comme on dit, dans ce domaine, elles sont plus que régulières et elles se multiplient. Et puis, il faut aussi comprendre que on a souvent tendance à faire croire aux gens que avec le numérique, avec l'IA, c'est facile.
Oui,
il y a qu'à appuyer sur un bouton et puis tout va se résoudre. Sauf que non, c'est des métiers qui demandent de plus en plus d'expertise. Oui. On peut plus être bon en tout, en fait, aujourd'hui. Et on est bon dans un domaine, il faut choisir son domaine et on est expert dans un domaine d'activité. Donc c'est pour ça que, et ce qui est différent, c'est ce qui est pas facile pour un chef d'entreprise dans une petite entreprise, c'est que le chef d'entreprise doit être je vais dire, pas expert en tout. Il doit être bon en tout sans être expert. Il doit connaître un petit peu tous les domaines d'activité, toucher un petit peu à tout. Pour savoir déjà comment ça se passe, c'est important. C'est ce que j'explique souvent aux gens. Je leur dis, je vous demande pas d'être expert dans tous les domaines. Par contre, je vous demande de connaître un petit peu tous les domaines. Pourquoi ? Pour comprendre déjà comment ça se passe, mettre un minimum les mains dans le cambouis, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend mieux, pour pouvoir ensuite aller trouver les partenaires, les prestataires qui font de la qualité et qui vont être capables de répondre à vos besoins.
Et en même temps, ce sont des domaines tellement qui paraissent tellement comme ça de l'extérieur compliqués que on a peur aussi de pas être à la hauteur. Il peut y avoir ce sentiment d'humilité.
Oui, c'est vrai. Et puis, les outils deviennent de plus en plus accessibles aussi, contrairement à avant. Vous prenez de l'intelligence artificielle, tout le monde peut accéder à ChatGPT en version gratuite. Après, il faut savoir le maîtriser pour récupérer les bonnes informations, le bon type de réponse. C'est des outils de toute façon qui aujourd'hui vont rentrer dans les entreprises, qu'il va falloir apprendre à utiliser. Souvent, on a peur de ces outils-là parce qu'on se dit que ça va détruire des métiers. Je pense pas forcément que ça va détruire des métiers, je pense que ça va faire évoluer les métiers, on va rentrer de manière différente.
On est d'accord.
Et que tous ces accès simplifiés ont un aspect cybersécurité qu'il faut prendre en compte, puisque vous entrez sur ce qu'on appelle des plateformes open source, vous envoyez de l'information à ces plateformes, vous savez pas où ça va.
Oui, c'est ce que nous disait Marion aussi tout à l'heure. Ouais. Et donc vous, Lydie, c'est vous qui interviendrez le 28 mai ?
Oui, tout à fait. Alors, pas seulement, l'ensemble de l'équipe.
Avec peut-être des élèves aussi, non ?
Oui, en tant que témoin. Oui. Mais on sera effectivement présent pour conseiller déjà, justement, parce que ce n'est pas forcément évident à appréhender comme secteur. Donc, on sera là pour conseiller quelles sont les formations qu'on peut avoir, justement, si on souhaite avoir un vernis sur l'ensemble des domaines techniques informatiques. Quelles sont celles qui vont nous apporter plus une spécialisation, parce qu'on sait qu'on veut travailler dans la cybersécurité, c'est seulement ça. Voilà, donc on a vraiment ce rôle de conseil.
Très bien. Merci beaucoup, Lydie Arceo. On retiendra que grâce à vos relations privilégiées avec de nombreuses entreprises en France, l'école offre une grande variété d'opportunités professionnelles à ses étudiants.
Merci.
Merci aussi pour votre expertise. Voilà, on arrive doucement à la fin de cette émission. On refait un tour de table, hein, vous connaissez la tradition. Peut-être que Marion, vous vous préparez pour cette journée du 28.
Oui, on est prêt et on a hâte de rencontrer les entreprises locales pour continuer notre démarche de sensibilisation. Et puis de justement, vous disiez tout à l'heure, d'être humble par rapport à ces sujets et essayer de les comprendre. Et notre rôle,
Que vous êtes quand même une experte.
Oui, mais notre rôle, c'est ce que je dis souvent aux équipes, c'est de parler français.
Oui.
Parce on l'a touché du doigt là, ce sont des sujets effectivement d'experts. On peut vite partir dans la technique. Et en fait, aujourd'hui, on a besoin de traiter ces sujets en étant éclairés. Et donc, notre job, et grâce à ce type d'événement, c'est de rendre les choses plus accessibles. Et c'est un peu ce qu'on attend, nous, de ce type d'exercice. Et on est toujours très heureux quand la CCI nous propose d'intervenir ou de venir pour des ateliers ou des présentations de sensibilisation, parce que je pense que c'est vraiment notre rôle d'expert, justement, d'essayer de simplifier et de faire prendre conscience que ça peut être à la portée de tout le monde. Et on parlait tout à l'heure des formations cyber assez larges. Il y a la gouvernance cyber, typiquement, c'est un sujet, c'est pas très technique. C'est des notions de cyber qu'il faut effectivement acquérir via des formations. Et ça peut être accessible à tous.
C'est ça, oui. Vous le confirmez. Merci, ne changez rien, Marion Laget. Merci à vous. Lydie Arceo, un mot de conclusion.
Oui, alors simplement, on n'a pas évoqué cette partie-là, c'est la validation aussi des acquis de l'expérience, la
D'accord,
VAE,
mais je vous en prie,
qui fait partie donc de la formation continue, simplement pour... voilà, pour le site, pour la cité. La VAE aujourd'hui, c'est aussi important parce que il y a beaucoup de profils de personnes qui se retrouvent à travailler dans l'informatique et qui n'avaient pas forcément la formation académique ou en tout cas le diplôme pour valider ça. Et donc, ils ont la possibilité aussi de venir sur une VAE. Donc, qui va leur donner un diplôme qu'on dispense au sein de l'école, donc soit entre bac plus 3 jusqu'à bac plus 5. Et donc, en fait, tout simplement, si vous avez été sur le terrain, vous avez une expérience démontrée en informatique, par exemple en cybersécurité, vous pouvez prétendre au diplôme en passant par le biais d'une VAE. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi qu'on dispense et qui va prendre de l'ampleur. Parce que c'est aussi la volonté du gouvernement d'inciter les personnes à faire des VAE, effectivement.
Est-ce que c'est un peu l'équivalent d'une mise à niveau des acquis ?
Oui, alors c'est vraiment une validation, dire ok, vous avez été chef de projet pendant 10 ans, donc potentiellement vous avez vraiment des connaissances de gestion de projet en informatique, donc vous pouvez les sanctionner, les valider par un diplôme. Et avoir cette reconnaissance académique et donc obtenir le diplôme qui correspond, donc un bac plus 3 ou un bac plus 5 en ingénierie informatique avec une option soit cybersécurité, soit gestion de projet, soit IA, etc.
Très bien. Voilà. Et vous sentez que ce décret intéresse, enfin, les gens le recherchent ?
Oui, on est vraiment de plus en plus sollicités, encore une fois aussi parce que c'est accessible aux particuliers, dans le sens où c'est aussi éligible au CPF. Et puis, c'est de plus en plus demandé parce que en France, on a quand même cette culture du diplôme, de la certification. Et donc, très souvent, c'est ce qui manque, souvent dans l'informatique, enfin, parfois, en tout cas, vous arrivez sur le terrain et vous apprenez sur le terrain. Donc, et souvent, en gestion de projet, j'évoquais, c'est souvent le cas. On devient chef de projet un peu malgré nous. Et donc, le sanctionner par un diplôme, c'est une vraie reconnaissance et c'est important. Et on a notamment parlé de la gendarmerie de Pontoise. Vous avez des vidéos sur Internet, sur notre site, justement. Par exemple, de chef de groupe, Jérôme Duhamel, qui est venu, qui fait partie de la gendarmerie de Pontoise, qui a suivi une VAE, justement, pour valider un diplôme Bac plus 5, option cybersécurité, parce qu'il a une expérience plus que probante sur le sujet.
Très bien, très bien. Merci infiniment Lydie Arceo. Et puis vous nous tiendrez, enfin tous les trois, vous allez nous tenir au courant du succès de cette journée du 28 mai. Jérôme Pradel, le mot de la fin, c'est pour vous.
Le mot de la fin, c'est pour moi. Alors, on parlait de gendarmerie. Nous, on va terminer avec, cette fois-ci, on va travailler avec, comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, la police nationale et les réservistes experts en cybersécurité de la police judiciaire. On est toujours sur nos corps d'État sécurité. Et on a hâte que cette journée arrive, de pouvoir permettre à nos entreprises de notre territoire de profiter de ce moment pour se sensibiliser sur ce sujet, en apprendre un peu plus en effet sur tout ce qui est formation dans le domaine, et puis aussi de rencontrer toutes les entreprises qu'on va installer ce jour-là à la CCI du Val d'Oise, on va essayer de faire de cette journée quelque chose d'un peu ludique et intéressant, de pas tomber sur les habitudes qu'on a de faire des événements un peu redondants avec de la transmission d'informations qui descend. Là, on va rentrer un petit peu sur le côté pratique.
Après, je trouve que ce sont des sujets tellement importants, et puis aussi la répétition ne peut être un plus, parce que voilà, il y a des choses qu'il faut arriver à vraiment intégrer, et puis que ça devienne réflexe.
C'est un petit peu l'une des bases aussi du digital et de la communication. On dit souvent qu'il faut répéter 7 fois la même chose pour que ce soit entendu et que ce soit enregistré. C'est un petit peu le cas. C'est vrai que jusqu'à présent, on faisait beaucoup d'ateliers, d'événements, de webinaires sur le côté marketing digital, parce que c'est aussi une demande de nombreuses entreprises. maintenant, on a des sujets comme, en effet, la cybersécurité, la facturation électronique, l'IA qui arrive. Le programme FEDER, dont fait partie cet événement, insiste aussi sur ce côté d'accompagnement des entreprises sur de la cybersécurité, de l'IA, les nouvelles technologies. Donc, c'est vrai que c'est un point sur lequel la Chambre de commerce du Val d'Oise et la Chambre de commerce Paris-Île-de-France, les Digiteurs, vont mettre l'accent sur de 2024 à 2026. Donc, voilà, on est là pour... nous, notre travail, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à ce niveau-là. Donc, il faut surtout pas hésiter. Vous avez une question sur le côté numérique dans votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous répondre. Si jamais on n'a pas la réponse, on a des experts sous la main vers qui on peut vous renvoyer. On a des experts qui sont aussi labellisés, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour ça.
Merci pour ce rappel, Jérôme. Et puis nous, on manquera pas de rappeler cet événement du 28 mai sur IDFM Radio pour vous ayez un maximum de participants.
Merci
Jérôme, Marion et Lydie d'avoir été les invités en direct de l'économie en direct, et puis pour vos précieux conseils en matière de cybersécurité. Et puis voilà, bon, comme je l'ai dit, on relaiera cette journée du 28 mai, oui, en temps et en heure. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Guillaume pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. Et on se retrouve mardi à 9h30 pour une nouvelle émission consacrée, elle, à l'université de Cergy, CY. Donc voilà, on va peut-être parler de cybersécurité aussi. Alors à mardi, belle journée et bon week-end.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Ce soir je reste ici, j'ai pas envie de sortir. Tard dans les rues le soir, j'ai peur des hommes, j'ai peur du noir. Fais rester dormir, j'ai pas envie de mourir. À cause d'un bâtard qui me demandera comment ça va. Si c'est pas moi, ce sera forcément une autre. Si c'est pas là, ce sera forcément là-haut. Si c'est pas moi, ce sera forcément une autre. Si c'est pas là, ce sera forcément là-haut. Si c'est pas nous, ce sera forcément les autres. Si c'est pas là, ça sera forcément là-haut. Si c'est pas nous, ça sera forcément les autres. Si c'est pas là, ça sera forcément là-haut. Je prends le temps, j'observe. T'as pas le temps, j'accepte. Je fais le tour de la terre, mais faudrait que j'atterrisse. Perdu dans mes rêves, il pleut dans mon cœur. Trop de larmes, de sueur et de sang. Je suis perdu dans le temps. Qu'est-ce que tu fais si loin de moi? Je me retrouve dans mes sons. Mélodie apaise mes nerfs. Ce soir je reste ici, j'ai pas envie de sortir. Tard dans les rues le soir, j'ai peur des hommes, j'ai peur du noir. Ce soir je reste ici, j'ai pas envie de sortir. Tard le soir, j'ai peur des hommes, j'ai peur du mal. Si c'est pas moi, ce sera forcément une autre. Si c'est pas là, ce sera forcément là-haut. Si c'est pas moi, ce sera forcément une autre. Si c'est pas là, ce sera forcément là-haut. Si c'est pas nous, ce sera forcément les autres. Si c'est pas là, ça sera forcément là-haut. Si c'est pas nous, ça sera forcément les autres. Si c'est pas là, ça sera forcément là-haut. Si c'est pas nous, ça sera forcément les autres. Si c'est pas là, ça sera forcément là-haut. Si c'est pas nous, ça sera forcément les autres. Si c'est pas là, ça sera forcément là-haut.